va attaquer directement cette péricope. On va essayer de s'y tenir parce que sinon, ça veut dire qu'on est en décalage la fois prochaine aussi.
Oui.
Donc, on va faire les versets 30 à 40. J'espère qu'on va avoir le temps de le faire correctement. Juste spécifier qu'alors, avec cette nouvelle péricope qu'on va lire dans un instant, on analyse la deuxième partie du discours d'Étienne, c'est-à-dire celle qui concerne Moïse et la loi, le soi-disant blasphème. Et au fond, Étienne, au travers de cette petite partie du discours, ben, il va démontrer que les arguments liés au blasphème, ce qu'on lui accuse d'être, blasphémateur, ben, c'est plutôt Israël qui est blasphémateur, y compris l'Israël du 1er siècle. Voilà, parce que derrière son discours, il y a toujours quelques velléités de régler ses comptes avec le Sanhédrin. Voilà, voilà. Donc si quelqu'un peut nous lire les versets correspondants 30 à... Qu'est-ce que je dis 30 à 40
43.
Non, 43. Je me suis trompé dans mes notes.
40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge ? » C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu enfant. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. »
Très très bien. Alors comme vous vous en êtes bien aperçu au verset 30, on retrouve les fameux 40 ans dont on a déjà parlé, je crois, la semaine passée, comme au verset 23. Conformément donc à la manière de la tradition juive, si vous voulez, de découper la vie de Moïse en période de 40 ans. Ce qui nous laisse donc entendre qu'il a 80 piges au moment où il va devenir le libérateur du peuple et qu'il organisera la sortie d'Égypte. Bien entendu avec le coup de main de Dieu dans tout ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on apprend dans ce verset 30 ? À la bonne page.
Au verset 30. Un ange lui apparut
au désert du mont Sinaï.
Dans le buisson ardent. Enfin,
okay.
Dans le buisson en feu.
D'ailleurs, un ange apparu, c'est le même verbe qu'au verset 26, c'est-à-dire c'est une apparition soudaine. Mm-hmm. Il n'y avait rien à l'instant précédent, puis tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui attire le regard. Ok. Alors, on nous dit que c'était un ange. J'avais posé quelques questions là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
aussi.
Dans l'Exode, c'est aussi l'ange du Seigneur.
Oui, l'ange, là, c'est plus explicite dans l'Exode, effectivement.
Oui. Et dans Genèse 31, il est clairement identifié comme le Seigneur qui se manifeste aux hommes. Donc c'est l'ange de l'Éternel, le Seigneur lui-même.
Oui, il dit « Je suis Dieu qui... »
Oui, après, on voit dans la prise de parole que c'est Dieu qui parle.
Oui.
Donc, comme je vous l'avais déjà expliqué deux ou trois fois, je pense, maintenant, c'est pour ça que je dis que l'Exode est plus précis que le discours d'Étienne. Dans l'Exode, il y a vraiment l'ange de l'Éternel. En général, quand il y a ces mots, ça, c'est équivalent à Dieu lui-même, si vous voulez. Sauf que si Dieu se montrait tel quel, personne ne tiendrait, tout le monde meurt sur place. Donc, pour que ce ne soit pas le cas, il y a une sorte de représentation, de filtre, si vous voulez, qui fait que Dieu apparaît, mais sans nous mettre à mort, sans nous faire périr. Voilà. Ça va ?
Moi, j'avais toujours entendu, mais bon, je crois que c'est pas juste, mais que quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même.
Alors ça, c'est une sacrée interprétation.
Ouais.
Je n'en mettrai pas ma main au feu, personnellement, parce que je pense que théologiquement, ça tient pas trop la route. Parce que, si tu veux, dans l'Ancien Testament, la présence du Christ, elle est plutôt de l'ordre de la parole ou de la sagesse, mais pas tellement d'une représentation ou d'un rôle de messager. Lui, il va être avocat, il va être... il va accepter une mission folle qui est de s'incarner, puis... de sauver l'humanité grâce à ça. Voilà. Non, je pense vraiment qu'il faut garder les expressions ange de l'Éternel comme apparition de Dieu, théophanie, si vous voulez, pour reprendre le vocabulaire, mais en aucun cas comme une des personnes de la Trinité qui viendrait jouer un rôle particulier. Voilà.
Merci.
Alors, on a donc une vérification interne dans notre texte, c'est-à-dire au verset 31, où l'on voit bien que celui qui est apparu dans le buisson, c'est celui qui parle, et celui qui parle, lui, est identifié. Hein, c'est la voix du Seigneur qui se fait entendre, et c'est d'ailleurs ce qu'Exode dit également. Donc, est-ce que c'est juste que le verset que je vous cite, 31,
oui,
je crois que c'est ça. Hein.
Oui, la voix du Seigneur, ce qui l'entend.
Alors, l'événement en question, de cette apparition dans le buisson, ça se déroule au Sinaï. Donc, au fond, pour représenter un petit peu les choses, Moïse est devenu berger au pays de Madian, un peu entre le delta du Nil et les monts Sinaï. Mais pour arriver au mont Sinaï, il faut traverser un désert. Et c'est ce qu'il a fait avec ses moutons, sans doute qu'il n'y avait pas assez de pâturage. Il est parti plus vers le Sinaï, et c'est là que Dieu lui apparaît. Et j'aime l'expression « au désert », parce que ça veut tout dire aussi, dans un lieu où il n'y a pas d'autre possibilité que d'être confronté à soi-même, ou d'être confronté à une rencontre extraordinaire. Voilà. Je dirais au milieu de nulle part, en fait. Ça se passe au milieu de nulle part. On sait géographiquement, d'après les textes de l'Exode, que c'est du côté du mont Horeb, qui est l'équivalent du Sinaï, en réalité. Voilà. Donc c'est en tout cas déjà dans des parties montagneuses de cette région. Et moi, ce que je voulais vous faire souligner du doigt, c'est que finalement, Dieu, ou l'ange de l'Éternel, peu importe, il apparaît ici au désert à Moïse, mais si on est très attaché au texte des Actes, on a déjà découvert qu'il était avec Joseph en Égypte et avec Abraham en Mésopotamie. Et on peut donc en tirer cette insistance d'Étienne à donner des détails de ce type, c'est dire au Sanhédrin, Dieu n'est jamais lié à une ville, fût-ce Jérusalem, un lieu précis, par exemple le temple, ni un territoire ou un pays. Donc Dieu est là où il veut, là où il manifeste sa présence, et on n'a pas besoin pour ça qu'il y ait une espèce de lieu sacré pour autant. Quoi. Évidemment, ça doit faire tiquer l'Assemblée lorsqu'il exprime ces choses. Et alors, quelle est cette manifestation ? Comment Dieu
attire l'attention qui est en feu et qui ne se consume pas.
Ouais. Le terme hébreu utilisé dans Exode pour le buisson, c'est une variété d'acacia, des acacias rabougris, pas très haut. Donc voilà, c'est pour le fun. Hein. Enfin, ça a des épines, effectivement. Et rabougris parce qu'ils survivent à l'absence de pluie, en fait, dans ce milieu très désertique. Hein. Il pleut une fois toutes les lunes, et quand il a plu, l'eau s'infiltre très rapidement dans le sous-sol, et c'est terminé. À part que les ouettes coulent pendant quelques heures.
Et particularité, c'est une anecdote. L'acacia de cette région-là, si tu la brûles, elle s'enflamme comme une torche.
Oui. Mmh. Tellement donc, c'est sec. Hein.
Il devait être étonné de voir brûler un acacia sans consommer. Ça fait vraiment, en fait, c'est un feu de paille. Hein. Ça fait et voilà. C'est éphémère.
Donc déjà, on peut se dire une chose, c'est qu'il n'y a rien d'étrange à ce qu'il y ait des buissons dans cette région. Ça fait partie de la flore traditionnelle du coin. Que des buissons prennent feu, ça fait aussi partie des choses de la vie, surtout par temps très sec. Mais effectivement, qu'un buisson brûle sans se consumer...
L'apparence de brûler, mais c'est...
Oui. En tout cas, on peut dire une certaine luminosité, comme une flamme de feu, dit le texte d'ailleurs, qui attire le regard, inévitablement, puisqu'on voit aussi bien dans Exode que là, dans le texte, que ça attire la curiosité de Moïse, puis il a envie de faire le tour, tu vois, pour bien regarder comment c'est possible que ce soit... Un truc comme ça, et c'est au moment où il allait s'engager
derrière
pour faire ce tour que la voix retentit, et là, on ne rigole plus. Alors, la flamme, le feu, souvent dans les théophanies, c'est une représentation de la puissance de Dieu. Donc c'est quand Dieu est présent dans ce qu'il est, dans ses attributs, qu'il jaillit comme une lumière puissante, extrêmement visible. Ça marque donc, d'une certaine manière, le caractère sacré du lieu, la présence de Dieu, d'un Dieu qui se révèle, qui interpelle l'homme, qui lui parle, etc. Et je ne sais pas si vous aviez vu ça, par curiosité, j'ai été voir un texte dans Deutéronome, c'est un texte de bénédiction, en fait, Deutéronome 33, au verset 16, qui dit que dans ce verset-là, le Seigneur est appelé celui qui demeure dans le buisson. J'ai bien aimé cette référence, en tout cas. Donc, le fait que le buisson ne se consume pas malgré un feu apparent, ça souligne quand même assez bien la pérennité, si vous voulez, l'éternité de cette présence divine et de sa puissance. C'est-à-dire que Dieu peut être présent, et il peut être présent n'importe où quand il le veut, parce qu'il est toujours présent en réalité. Alors, il apparaît, mais sinon, il est quand même présent, même s'il n'apparaît pas. C'est un peu ce que souligne cette histoire de la flamme. Et on peut dire que pour Moïse, cette théophanie, cette apparition, ça joue un rôle de révélation. Lui, qui était prince d'Égypte, qui vient de passer 40 ans dans le désert comme berger, qui a eu le temps de réfléchir à sa vie, à son passé, à son devenir aussi, vraisemblablement, tombe là devant quelque chose qui l'oblige à s'arrêter, qui l'oblige à se remettre en question. Et cette apparition dans le buisson, elle sera décisive pour Moïse, même si on sait que dans l'histoire d'Exode, il se défile, il essaye de ne pas partir, comme ont fait d'ailleurs certains prophètes. Mais c'est une sorte, en fait, de nouvelle naissance pour Moïse, et donc pour Israël. C'est un pas de plus vers la réalisation de la promesse. Le fait qu'il y ait interpellation de Moïse et appel à une mission, ça on y reviendra dans un moment, c'est de nouveau une marque d'avancée dans la réalisation de la promesse. Il se retrouve donc... Il retrouve donc au travers de cette expérience le Dieu de ses pères, dont il avait sans doute une certaine idée, comme on en a discuté la fois passée, même si en tant qu'éduqué à la cour impériale d'Égypte, il n'a peut-être pas eu beaucoup le temps d'être enseigné sur le Seigneur Dieu, l'unique, etc., etc. et il baignait plutôt dans une atmosphère très culturelle et religieuse, pour ne pas dire idolâtre. Une chose qu'on peut aussi remarquer avec cette histoire du buisson, c'est l'analogie qu'il faut faire avec Jacob. Vous savez, le fameux père du peuple d'Israël a eu le même genre de... alors, ce n'était pas un buisson, cette fois-là, c'était une échelle. Hein, vous vous souvenez de cette histoire. Dans Genèse 28, je trouve qu'il y a... les deux scènes sont très similaires, finalement. Ils font la même expérience, en tout cas de la rencontre avec Dieu, qu'ils identifient comme telle. C'est-à-dire aussi bien l'un que l'autre, que ce soit le buisson ou un songe, dans les deux cas, Moïse et Jacob vont identifier leur interlocuteur, celui qui les interpelle au travers de cela. Et d'ailleurs, pour Jacob, il va transformer le nom du lieu. En fait, le nom du lieu, c'était Luz, pas loser, hein, Luz. Et maintenant, il lui donne le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Il se trouve que pour lui, c'était comme une rencontre dans la maison de Dieu. Et il bâtit un hôtel, donc voilà. Dire que c'est important de faire ces liens avec le passé. Et donc, c'est en ça aussi qu'on peut dire qu'il retrouve vraiment l'histoire de ses pères, le vécu de ses pères, le vécu de la foi des pères avec Dieu, etc. Et d'ailleurs, pour nous en convaincre, eh bien, la suite du texte, hein, qui va commencer à nous dire qu'il s'agit du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, il est clair qu'Étienne condense très fort l'histoire de l'Exode. Hein. On n'a pas tous les détails qu'on peut y trouver, mais en tout cas, on a l'essentiel, au verset 32. C'est le Dieu de ses propres ancêtres, de ses pères. C'est une formule assez chère à l'Ancien Testament, où Dieu se présente en général de cette manière-là. Et on pourrait dire ainsi, quand on utilise cette formule, je ne sais pas si vous y avez réfléchi avec le questionnaire, pourquoi revenir avec cette espèce d'expression, de refrain qu'on trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça peut signifier ?
L'appartenance à...
Oui, on peut parler de l'origine ou de l'appartenance.
Il se réfère souvent à ça, dans le Sanhédrin et tout ça, non ? Mm-hmm.
De toute façon, c'est une expression hyper connue. Hein.
Oui.
Jésus dira qu'en reprenant ce verset, qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Mm-hmm. Donc, un Dieu ancré dans l'histoire des hommes, on pourrait presque dire temporel, même s'il est, lui, d'ordre de l'éternité, mais il côtoie les hommes, il a côtoyé les pères, les ancêtres d'Israël, et donc les ancêtres de Moïse. Et à cause de cette histoire particulière qu'il a tissée avec les trois patriarches, eh bien, il est tenu par sa promesse.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un Dieu fidèle.
Exactement. Donc c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Si Dieu a été le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce qu'il s'inscrit dans l'histoire et dans le relationnel, et qu'au travers du relationnel, dans son amitié avec Abraham, il a promis quelque chose. Et cette promesse, il va la tenir dans les temps, hein, comme il pense qu'il faut le faire. Et on peut dire aussi alors que cette histoire qui s'est ancrée dans la vie des trois patriarches devient aussi le possible de l'histoire des Hébreux. C'est-à-dire, à cause de la promesse, il y a l'espérance de cette réalisation. Tout comme on pourrait dire, nous, chrétiens, à cause d'Abraham et de la promesse, il y a eu une espérance pour nous. Et maintenant, nous participons à cette nouvelle vie que le Seigneur a offerte.
Les trois noms qui sont donnés ici, Abraham, Isaac et Jacob, et il y en a minimum deux qui ont rencontré Dieu. Là. Isaac a rencontré Dieu aussi, de manière...
Isaac, c'est un peu le bon fils du père, j'ai envie de dire. Il a hérité d'un certain nombre de choses, il n'a pas remis en question. Il a eu une vie plus cool qu'Abraham, et plus cool que Jacob, qui lui était quand même un batailleur. Voilà, il a fait ses expériences. Hein.
Parce qu'il y en a un qui s'est battu avec Dieu, l'autre, ben, on a arrêté sa main pour ne pas...
Oui, c'est pas triste.
Donc, je veux dire, au moins, il y a cette référence-là. Quoi. Et ici, ben, Moïse aussi rencontre Dieu. Je suis Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et j'apparais devant toi.
Mais Isaac, toi, c'est celui qui a été choisi. Toi. Parce que c'était normalement son frère qui devait être l'héritier.
Non,
Jacob. C'est Jacob et
Isaac. Ah oui, pardon, je me trompe.
Isaac, c'est le plus sympa, le plus gentil. Vous savez que dans le Coran, on ne cite pas Isaac, hein, on cite Ismaël.
Ah, ah, bah,
on reprend cette expression, mais en mettant Ismaël.
Oui, forcément, parce qu'eux viennent de là. Ouais.
Qui l'a dû sacrifier et qui ne l'a pas sacrifié, Abraham ?
Répète ta question.
Abraham a dû sacrifier quelqu'un.
Oui.
C'était
son...
qui ?
Isaac, son fils.
Ouais. Je pense qu'il a vu Dieu. Il a arrêté la main de qui ? Il était où, son fils ?
Ah oui, en dessous.
Oui.
Il a assisté à la scène au premier plan.
Ah oui, les deux, ah, les deux. Oui. Bah oui, évidemment. Ouais.
Il a assisté à la scène au premier
ici,
plan.
Bah, oui, mais c'était des
ça a l'air.
Donc on a tendance à oublier ça.
Ouais, mais non, mais c'est juste.
C'est lui qui était couché.
En tout cas, c'est trois personnes qui ont vu Dieu. Donc en l'occurrence. Et c'est sauvé par
mais il a assisté au premier plan.
Oui, c'est vrai.
En plus, imaginons, si on imagine la scène 30 secondes, je suis Isaac, je suis couché ou par terre ou sur une pierre. La main de mon père me cache peut-être le visage ou me tient, mais l'autre main. Donc je suis au premier plan. Donc si Dieu intervient. J'en suis très 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 conscient.
Son père lui a dit Dieu interviendra, Dieu pourvoira. Pour avant, évidemment, de passer sur la table, mais.
C'est de nouveau une sacrée épreuve, l'air de rien.
Donc, il est, à mon avis, il a vu Dieu. Ouais. Doublement. Ouais. Ouais. Il a vu son salut. Ouais. Et il a vu l'éternel.
Moi, je voyais toujours dans le dos, tu vois, le couteau. Donc, pour moi, je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait le voir.
Moi, étant père, j'aurais caché les yeux de ma fille, tourné son visage. Mais on n'arrête pas une main qu'avec le visuel. Hein. Donc, il était présent.
Quand tu parlais de. Je reviens en arrière. Tu parlais de nouvelle naissance par cette apparition, cette théophanie. Est-ce qu'on, c'est moi qui suis trop poète, en disant, est-ce que, comme le buisson ne se consume pas, c'est comme si, par là, le cœur de Moïse devient, ne se consume plus, il est attiré, il est pris à tout jamais.
En tout cas, c'est ce que la suite de sa vie va montrer. Oui. C'est que lui sera toujours très proche de Dieu.
On ne peut pas dire là.
C'est un des rares dans la Bible qu'on dit être ami de Dieu.
C'est moi qui interviens.
Dans la proximité. Donc c'est quand même très important. Abraham était déjà un gars exceptionnel, mais Moïse en est un. Et quand on parle de renaissance, il faut bien comprendre que s'il a passé 40 ans dans le désert, il a eu le temps de réfléchir donc à sa vie précédente, à celle de l'Égypte, etc. Mais en même temps, l'expérience spirituelle qu'il fait là, c'est ce qui fait tourner définitivement la page. Je ne suis plus égyptien, je m'identifie à mes pères, je m'identifie à mon peuple, et je vais finir par, en sciant un peu les côtes à Dieu, à accepter quand même la mission, malgré mes handicaps.
Et est-ce que c'est Dieu qui lui dit d'ôter les sandales, d'après le texte ? Mais il savait bien, puisque... Déjà, d'après la. Quand on est en présence de Dieu, quelque chose. Une théophanie, il fallait ôter
ses sandales. Le problème, c'est qu'au début, il ne le sait pas. Il voit quelque chose d'un peu spécial. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Des buissons brûlés, j'en ai déjà vu, mais ça, je n'ai jamais vu. Un truc qui ne se consume pas et qui continue à briller très fort.
Et qui parle.
Et c'est là que Dieu intervient. Il lui dit
mais. Les buissons commencent à parler.
Et qui parle.
Il est tout tremblant, il dit.
Oui, je vais poser une question. Oui.
C'est,
pas,
tu as c'est là qu'il prend conscience.
Que quand on voit Dieu, on meurt.
Ben oui, c'est pour ça qu'il ne veut pas regarder. Là.
Mmh. Oui, mais c'est où est-ce qu'on dit ça et pourquoi il y a une raison.
Parce que là, on ne peut pas voir
Dieu. Oui, alors certains te répondraient de manière très, très évangélique. Oui, Dieu est trois fois saint, donc nous qui ne le sommes pas, on ne tient pas face à la sainteté de Dieu. Mais maintenant, il faut bien comprendre que Dieu, c'est l'énergie créatrice de tout le cosmos, et donc une énergie vibrante, dangereuse par conséquent, qui d'ailleurs se visionne par l'aimant qui est celui du feu. Le feu est quelque chose de destructeur, en tout cas dans l'Ancien Testament. Esh en hébreu, c'est pas rien. Et voilà une des raisons, en tout cas. Mais chacun peut ajouter son grain de sel. à ce que je suis en train de raconter. Au fond, c'est difficile de vivre. En tout cas, sans le salut, il est impossible de vivre dans la présence réelle de Dieu. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs que c'est seulement au jour du jugement et après jugement qu'on pourra vivre dans une proximité physique, j'ai envie de dire, avec Dieu. Avant ça, c'est quasi impossible.
Là, on le verra.
En tout cas, on verra ce qu'il nous donne à voir. C'est pas encore.
Quand tu parles justement de la fin, dans le livre des Révélations, à la fin, Jean, il entend une voix qui sort du temple. Mais cette voix ne sort pas du temple. Et quelque chose de l'ordre de la puissance dont exprime Yves. Et j'ai trouvé en fait les deux, une à la suite de l'autre, les deux, très intéressantes. Ça m'a interpellé ce buisson qui ne brûle pas alors que la puissance de Dieu se manifeste. C'est comme si quand Dieu investit quelque chose ou quelqu'un, il ne va jamais le consommer. Il va pas le consommer de l'intérieur, au contraire. Il va lui donner la vie. Il va le faire grandir. Il va l'aider à marcher selon ses voies. Et ça, je trouve que ce sont vos deux interventions, ça m'a fait penser à ça. Et comment se révèle en nous la puissance de Dieu ? Eh bien, par quelque chose de contraire à la violence, de contraire à l'étouffement, et de contraire à être consommé par quelque chose. En espagnol, on a une expression, quand quelque chose nous taronne, on est consommé, on brûle en fait à l'intérieur. Mais consommé por dentro, c'est-à-dire, je suis réduit en cendres de l'intérieur. Et Dieu, dans cette image, c'est très fragile, hein, cette petite chose-là dans le désert. Alors que Moïse traverse un désert. Il a tué quelqu'un, il s'enfuit, il n'est chez lui nulle part, il trouve une maison, comme ça il s'en accommode, et il paie des brebis alors qu'il est prince. Et il fait traverser ses brebis pour aller les faire paître dans quelque chose de plus vert. Et c'est quand il prend en charge son troupeau pour l'amener vers le meilleur que le bon berger le prend en charge pour lui montrer une voie meilleure. Mais il ne le consomme pas. Il l'investit de quelque chose qui va être plus grand que lui, mais qui ne va pas le détruire. Donc cette puissance...
Ça me fait penser à l'histoire de Daniel et la fournaise ardente.
Exactement.
On les jette, lui et ses copains, et ils ne brûlent pas. Et on les voit marcher. Par contre, après...
Ça brûle les serviteurs.
Et pour revenir à l'histoire de voir Dieu, il y a quand même un verset qui dit « Tout œil le verra et toute langue le confessera. » Alors, comment est-ce qu'on le verra? Moi, je pense que on le verra pleinement. Et on ne pourra le voir pleinement que quand on sera complètement transformé, c'est-à-dire mort, et accueilli par la grâce. Je pense que les anges doivent certainement voir Dieu. Et on voit l'agneau sur le trône, dit Apocalypse. Donc, oui, il aura peut-être une forme spéciale. Mais... Et pour rejoindre une troisième chose, pour rejoindre ce que tu viens de dire en espagnol, on brûle. Les disciples d'Emmaüs disaient, est-ce que notre cœur ne brûlait pas pendant que Jésus expliquait les choses? Et là, c'est Dieu, quand il parle dans un cœur, waouh, ça ramène tout.
Un petit détail pour les hébraïsants, c'est que dans cette histoire-là, entre autres, consumer, nous en français, consumer, c'est un drôle de verbe d'ailleurs, on voit pas trop le rapport. En hébreu, le mot c'est dévorer. Un feu dévore, en fait. On est mangé par le feu. Il y a un risque, donc, quelque part. Ok, poursuivons un tout petit peu. Donc, on est toujours au verset 32. Donc, ce que j'essaie de vous faire toucher du doigt, c'est que dans son discours, Étienne montre au Sanhédrin que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de relation, un être de relation, un être amoureux de la créature, au point de vouloir une relation intime avec cette créature. Au point, d'ailleurs, pour nous, de venir lui-même camper parmi les hommes en Jésus-Christ, afin que la promesse faite à Abraham s'accomplisse pleinement, qu'elle soit pleinement réalisée. Et donc croire au Dieu des Pères, c'est croire aussi au Dieu de Jésus-Christ, c'est ce qu'il essaye de dire. Le Fils unique, si vous voulez, c'est croire au vrai Messie, rejeté par les Juifs, parce qu'il est justement le nouveau Moïse, celui qui libère totalement de la servitude, on en a déjà parlé la fois passée, et qui, à lui seul, est la réalisation de la promesse. Jésus est la réalisation concrète de la promesse de Dieu faite à Abraham. Rappelez-vous cette parole sur la croix, tout est accompli, la promesse est accomplie. Après, il faut voir ce que nous en faisons, nous, du salut, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, et alors c'est à ce moment-là que le texte nous précise, comme dans Exode d'ailleurs, que Moïse a la pépette, hein, il a le peur. Il est quand même tremblant, dit le texte, tout tremblant, parce que c'est vrai que pour l'homme, le pécheur en particulier, ben, la rencontre avec Dieu est à la fois effrayante, si vous voulez, mais aussi une rencontre, à cause de notre fragilité, de notre impureté, mais aussi une rencontre de grâce, parce que Dieu s'adresse à lui, l'homme pécheur, l'homme mal éduqué d'un point de vue strictement foi, religion, etc., un prince d'Égypte, c'est-à-dire l'oppresseur par rapport au peuple élu, et pourtant Dieu s'adresse à lui en l'envoyant, en l'interpellant et en l'envoyant en mission pour son peuple, pour accomplir la promesse, etc. Et nous savons, quand on a lu l'Ancien Testament, qu'avant l'histoire de Moïse, Jacob aussi a eu peur dans Genèse 28. C'est spécifié dans le texte. Donc on retrouve un peu cette même crainte dans des circonstances particulières dans la Bible, et y compris dans la vie de Jésus d'ailleurs. Vous rappelez certains miracles qui créent la peur, la transfiguration qui crée un petit effroi, la marche sur les eaux, ça n'a pas fait rire tout le monde, et puis la résurrection, vous voyez, oui. Donc tous des moments où on hésite, on est partagé entre la crainte et puis le bonheur, le bonheur de la grâce qui nous tombe dessus. Et c'est à ce moment-là, quand Moïse est en train d'avoir peur, que la voix s'adresse à lui et lui intime d'ôter ses sandales. Alors là, ça a fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire des commentateurs. Je ne vais pas trop entrer dans le détail. Mais c'est quand même, ça vaut quand même la peine de s'attacher à ce détail qu'Étienne cite. Et on pourrait même se poser la question, est-ce un détail ?
Si je le cite, non.
Parce que dans les textes, que ce soit Exode ou Actes, on nous donne une raison. Pourquoi faut-il se déchausser ? C'est quoi la réponse ?
Par respect.
Non. Est-ce que les souliers ne représentent pas le fait que tu emportes
la poussière
okay. et...
On va y venir. Mais ouais. Quelle est la raison qu'il donne là ?
Et le sol est pur.
Ok. On reste quand même un peu sur sa fin avec cette déclaration laconique, n'est-ce pas ? Et avant de chercher plus loin, j'aimerais quand même qu'on s'arrête 2 secondes pour quelque chose d'intéressant et d'important. Mm-hmm. Normalement, la Terre Sainte, c'est quoi ?
C'est le pays promis.
La Terre promise.
Oui. Exactement, c'est Canaan. Donc tout d'un coup, voilà que le sud du Sinaï devient la Terre Sainte. Comment se fait-il que ce lieu désertique puisse être la Terre Sainte ? Et on retrouve le même ordre divin avec Josué, exactement mot pour mot, ôte tes sandales, etc., dans Josué 5, au verset 15. Et à ce moment-là, où est Josué ? Il se trouve près de Jéricho, avant la conquête de Jéricho, forteresse encore aux mains des ennemis d'Israël, par conséquent. Ce n'est pas spécialement l'endroit le plus pur, n'est-ce pas ? La preuve, c'est qu'il va falloir quand même batailler par la foi pour faire tomber Jéricho et finalement pour pouvoir l'investir. Alors il faut peut-être quand même conclure à partir de ce petit détail qu'un lieu est saint quand le Dieu trois fois saint s'y trouve, quand il s'y révèle, quand il est réellement présent en relation avec l'homme. Et c'est le fait d'être présent qui implique qu'un lieu devient saint. Et que pour cette raison, une certaine forme, alors je ne mettrai pas respect, non. On va y venir dans un moment, mais une certaine forme liturgique doit être respectée. On va y venir.
Une chose, cette région-là reste sainte. Cette terre-là reste
non.
sainte.
Non, non, non. non. C'est justement ça qu'Étienne essaye de dire. Votre Jérusalem n'est pas plus saint que le Sinaï ou que... l'Égypte pour Joseph ou la Mésopotamie pour Abraham. Hein. Arrêtez les gars.
C'est au moment où Dieu est présent. Là.
Oui. Alors, c'est quand Dieu est là, présent, dans une vraie relation. Et c'est quoi une vraie relation? C'est pas simplement quand quelqu'un s'impose.
C'est quand Dieu t'a choisi.
C'est quand on entretient la relation entre Dieu et l'homme, l'homme et Dieu. Là se manifeste vraiment Dieu. Or, que pensaient les auditeurs d'Étienne, et en particulier ses accusateurs?
Et le seul lieu, c'était le temple. Non?
Alors voilà, nous avons vu ça au chapitre 6, verset 13. Il y a un lieu saint dans tout Israël, c'est le temple. En dehors de ça, pour eux, les accusateurs, il n'y a pas de sainteté. C'est assez intéressant quand même. Alors, nous, c'est vrai, chrétiens du 21e siècle, quand on parle de terre sainte, on pense à Israël comme territoire. Mais ce n'est pas ça qui se cache derrière la réalité de la terre promise ou d'une terre sanctifiée. C'est une terre dans laquelle Dieu a sa place, pas seulement parce qu'il y est présent, mais parce que les hommes acceptent cette relation avec lui et fait que, dans leur attachement à Dieu, ils manifestent le côté saint, à part, si vous voulez, de ce Dieu-là, qui est un Dieu unique et qui n'est pas une idole, etc., etc. Mais on y reviendra dans un petit moment. Alors, revenons maintenant à l'histoire des sandales. Voilà, on a fait un petit point là-dessus. Donc, le lieu est saint, car Dieu s'y manifeste, et il entre en relation avec Moïse. Pourquoi faudrait-il enlever ses sandales plutôt qu'autre chose? Sa tunique, son turban, son chapeau, je ne sais pas. Est-ce simplement un signe de respect pour un lieu, ou même pour Dieu? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça donne du sens à notre texte? En tout cas, ce n'est pas très éclairant. D'ailleurs, quand vous alliez au temple à Jérusalem, fallait-il se déchausser? On n'est pas dans une mosquée. Fallait-il se déchausser à l'entrée du temple pour accéder au temple? Ben non. Par conséquent, quelle est la symbolique qui se cache derrière ce geste? Alors, on pourrait d'ailleurs, dans un premier niveau, parler d'abandon, de dépossession volontaire pour mieux s'abandonner à Dieu. Donc, on laisse de côté quelque chose pour entretenir la relation. Mais ce n'est pas suffisant. C'est sans doute en partie vrai, mais ce n'est pas la réponse.
C'est ce qu'on disait, de se débarrasser des souillures, de la poussière. Alors, donc, de la pierre.
Là, on va rejoindre. Je vais laisser Bernard reprendre la parole maintenant. Qu'est-ce que tu avais perçu par rapport à ces histoires de sandales?
Ça me fait penser aussi aux disciples qui devaient se laver les pieds les uns des autres, que Jésus a montré l'exemple.
Exact.
Parce que, et il a dit, il vous suffit simplement que vous soyez lavé les pieds, si je me souviens bien.
Parce que tout reste propre.
Pour que vous soyez pur, il a dit. Donc il y a cette idée qu'en marchant, on emporte les souillures du chemin, les souillures du monde. C'est une symbolique.
Exactement, oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc il y a ça, c'est le deuxième niveau. Je pense qu'on ne peut pas imaginer, surtout pour l'époque, hein, à quel point les sandales, ce qui te permettait de ne pas être piqué par les trucs d'acacia, entre autres, hein, les sandales représentent quelque part les œuvres de la mort, c'est-à-dire l'impureté, les souillures, marcher dans des crottes de brebis, puis après aller adorer Dieu, ben ça ne le faisait pas apparemment. Il fallait marquer quelque chose de symbolique à ce niveau-là. Ce serait donc le signe, si vous voulez, que devant le vivant, le seul vrai vivant, celui qui est vivant pour l'éternité, j'abandonne, comme un signe, si vous voulez, j'abandonne mes projets mortifères, c'est-à-dire ceux du péché, parce que ça commence par là. Mon statut pécheur, j'ai envie de l'abandonner. Je n'ai pas encore le salut en Jésus-Christ, mais quelque part, ce travail d'expiation, de purification, est déjà inscrit dans l'Ancien Testament. Mais je trouve que c'est encore une supposition qui n'est pas très étayé bibliquement. Donc on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin. Alors il reste une hypothèse, je ne dis pas que c'est la meilleure, ni que c'est la bonne, je dis que c'est une des hypothèses un petit peu plus étayée bibliquement, celle qui annonce le service liturgique des prêtres, des lévites, dont il est membre. Moïse est un lévite. Et la tradition juive, tout comme la plupart des théologiens pensent que ce service s'accomplissait pieds nus. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne trouve aucun enseignement explicite au sujet des sandales dans le la comment dire, l'habillement, le comment dire, le, je trouve pas le mot, mais bon, peu importe. Si vous voulez, par exemple, dans Exode 28, qui décrit tout l'attirail sacerdotal, il n'y a pas un mot sur les chaussures. Il n'y a pas de chaussures, en réalité. Et c'est ce qui fait dire à la tradition juive qu'on organisait le service du culte nu-pied devant l'Éternel. Mais un autre texte de l'Exode, Exode 30, versets 17 à 21, dit, édicte une loi immuable, je reprends les termes du verset, une loi immuable, les prêtres devront se laver les mains et les pieds à l'eau avant d'entrer dans la tente de la rencontre ou de s'approcher de l'autel des sacrifices, sous peine de mourir, dit le texte. Donc c'était quand même très très fort. On suppose, donc, dans Exode 30, versets 17 à 21, il est question d'une loi immuable, c'est-à-dire inchangeable, éternelle, si vous voulez. Quand on doit entrer dans la tente de la rencontre, si vous voulez, le tabernacle ou le temple, hein, disons-le comme ça, pour les prêtres, hein, je ne parle pas de celui qui va au temple, eh bien, on ne pouvait s'en approcher ou entrer que nu-pied, pareil pour l'autel des sacrifices. Sinon, c'était la mort. C'est-à-dire, non pas qu'on allait nous mettre à mort, mais on mourrait. Un peu comme l'histoire de l'arbre dans le jardin. Si tu manges du fruit de l'arbre, tu meurs. On suppose donc que ces prêtres qui venaient de se laver les pieds, débarrassés des souillures, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, n'allaient pas remettre leurs sandales pour accomplir leur service. Ça n'a pas de sens, effectivement. Et quand, finalement, vas-y.
Quand ils vont de maison en maison et quand on ne les reçoit pas, ils devaient secouer leurs chaussures aussi.
Oui, secouer la poussière de leurs chaussures.
Dans le même ordre aussi.
Non, ce n'est pas par rapport à la purification. Là, c'est plus par rapport à...
C'est une expression hébraïque pour dire nous, on fait comme ça.
Voilà.
C'est votre problème si vous désobéissez à Dieu. Okay. Nous, je ne dis pas qu'on s'en fout, mais bon, on en est débarrassé en tout cas. Mais au fond, donc, ce que certains théologiens disent, et une partie de la tradition juive, c'est que finalement, cet appel à ôter ses sandales, l'injonction qui est donnée à Moïse, est une préfiguration du service liturgique au tabernacle et plus tard au temple à Jérusalem. Mais moi, ça m'a fait penser, et ça je ne l'ai pas trouvé dans les commentaires, ça m'a fait penser au vrai grand prêtre, le Christ lui-même. Quand est-ce qu'il a officié, ce grand prêtre? Si on parle de Jésus, c'était quoi son geste?
La croix.
Oui. Exactement. Et étrangement, ce Christ-là, il est mort pieds nus. Donc, il réalise totalement l'idée que se faisaient les Juifs de ce que c'était que le service d'expiation, finalement, qui consistait à être à marcher débarrassé des souillures, si vous voulez, à marcher dans le lieu saint ou à aller vers l'autel, ce que le Christ a totalement réalisé. En mourant sur la croix. Fermons ici la parenthèse, mais ça m'a vraiment frappé en méditant encore cet après-midi sur cette fonction de grand prêtre. Et je vous invite d'ailleurs à relire Hébreux. Il y a de nombreux chapitres, hein, je crois que c'est du chapitre 4 au chapitre 9 ou 10. Ça vaut la peine parce qu'on s'aperçoit à quel point l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique l'Ancien Testament dans le chef de Jésus-Christ, comment Jésus a totalement accompli la prêtrise, la grande prêtrise, c'est-à-dire le droit d'entrer dans le Saint des Saints et lui d'y retourner par la même occasion avec sa résurrection. Et alors le Dieu, là, en question, qui a demandé à Moïse un geste, lui explique qu'il a vu la misère de son peuple, qu'il a entendu son gémissement. Et ça vous rappelle quoi, ce genre d'expression ? Un Dieu qui voit, un Dieu qui entend. Est-ce qu'on a des histoires dans l'Ancien Testament? Je pense à un en particulier, parce que ça, c'est vraiment le tout début de l'Ancien Testament.
C'est pas quand Abraham demande qu'il ne détruise pas la ville.
C'est pas Adam et Ève?
Oui, oui, je dirais même la génération d'après. Parce que là, c'est clair que Dieu voit Adam et Ève et entretient une relation avec eux, mais avec Cain qui tue son frère Abel, la première des choses qu'on nous dit, c'est que la voix du sang, c'est-à-dire la voix de la vie d'Abel, le sang et la vie, c'est kiff-kiff, la voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Un Dieu attentif, si vous voulez, c'est Genèse 4:10. Hein. Un Dieu attentif, et puis alors on retrouve toutes ces expressions d'un Dieu qui regarde, qui scrute, qui écoute. Dans les psaumes, il y en a beaucoup. Alors j'en cite quelques-uns. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Ça, c'est au 11e psaume. 33e dit, l'Éternel regarde du haut des cieux, il observe tous les habitants de la terre. Ou alors, plus loin, psaume 40, j'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur, il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri, etc. Bon, on trouve différents textes. Et puis les prophètes ne sont pas non plus de reste, puisqu'on trouve dans Jérémie, après une période de désespoir, Jérémie a quand même une vie assez difficile. Il dit ceci, quand on foule aux pieds tous les prisonniers d'un pays, parole tout à fait prophétique pour aujourd'hui, quand on fait dévier le droit humain à la face du Très-Haut, le Seigneur ne le voit-il pas ? J'ai invoqué ton nom, Éternel, des profondeurs de la citerne, tu as entendu ma voix, tu t'es approché et tu as dit, sois sans crainte. Ça, c'est dans les Lamentations de Jérémie. Donc on s'aperçoit que le Dieu de Moïse, d'Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu créateur, le Dieu d'amour et fidèle, attentif et bienveillant. C'est un Dieu qui vit, par conséquent, un Dieu vivant, qui intervient dans la vie personnelle, l'histoire des hommes, ce que les idoles ne font pas, puisqu'elles sont muettes et mortes. Donc ici, il manifeste, Étienne... non, je dis des bêtises. Ici, Dieu manifeste son attachement à Israël. Donc quand il agit de cette manière, il le fait toujours avec la même raison. La promesse, à cause de la promesse, à cause de son propre engagement, il ne peut pas ne pas accomplir ce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Et donc il dit, c'est l'Éternel qui parle, « Je suis descendu pour le délivrer. » Le fameux peuple. Bizarre, non ? Puisque la phrase d'après, c'est qu'il envoie Moïse. C'est quand même intéressant, ça, non ? On peut donc sans doute en déduire que Dieu appelle des hommes à collaborer pour manifester, pour reprendre un mot de Paul, sa puissance dans la faiblesse. Et pourquoi le fait-il ? Une divinité qui interviendrait sans les hommes, ce que prétendent d'ailleurs pas mal de religions, une divinité qui intervient sans les hommes, voire même contre eux,
il s'imposerait.
Voilà, exactement. C'est les dieux de la mythologie, notamment grecque ou romaine. Donc, le Dieu d'Israël est si différent qu'il demande la collaboration des hommes pour que sa puissance soit masquée, si vous voulez, encore une fois, une espèce d'approche très soft, très... Vous voyez ce que je veux dire ? Protectrice et bienveillante par rapport aux hommes, pour que les hommes ne soient pas foudroyés simplement par sa présence. Donc je trouve ça assez intéressant dans ce texte. Et donc il lui dit, ben, maintenant va, hein, je veux t'envoyer en Égypte. Après on sait dans Exode qu'il tergiverse, hein, il essaye de négocier comme font tous les bons juifs. Hein, question-réponse, etc. Voilà donc le but finalement de l'apparition dans le buisson. C'est l'envoi en mission. Moïse est missionné pour libérer son peuple de l'oppression égyptienne et pour le sauver, quoi qu'il en dise, quelles que soient les excuses qu'il veut trouver. Et puis là, ben, on tombe au verset 35 sur une petite parenthèse. Donc ce n'est plus vraiment le récapitulatif des événements avec Moïse, mais c'est une parenthèse qu'Étienne fait. Il s'indigne, alors vraiment avec beaucoup d'éloquence d'ailleurs, il s'indigne de la conduite du peuple hébreu à l'égard de Moïse et à l'égard de Dieu. Puisque c'est quand même Dieu qui l'a envoyé pour les délivrer, pour les sauver. Il envoie un chef, un guide, et on dit non, on ne te croit pas, on ne va pas te suivre, toi, etc. Et Étienne rappelle les faits. Il rappelle les miracles liés à la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, l'épisode des 40 ans au désert où Dieu a toujours pourvu aux besoins du peuple, etc., et où Moïse a été leur protecteur. Quand on voit le nombre de fois, si vous relisez l'Ancien Testament, où Moïse a dû supplier Dieu de ne pas les exterminer, parce que de nouveau, ils étaient retombés dans quelque chose de pas chouette, etc. Bref, en clair, ce qu'Étienne essaye de dire au Sanhédrin, c'est « Celui qu'on rejette, Moïse, entre parenthèses, c'est le sauveur choisi par Dieu. C'est la même attitude qu'avec Joseph, mais aussi, en filigrane, dans sa tête, la même attitude que vous avez eue avec Jésus. » Donc c'est de nouveau une sorte d'accusation voilée contre les autorités juives qui, finalement, rejettent les apôtres, rejettent le Messie, qui, lui, a pourtant été accrédité par Dieu avec clarté et puissance, comme on le sait en lisant les quatre évangiles. Donc on peut se poser quelques questions. Hein, comment c'est possible que les autorités ne voient pas ce qu'il y a lieu de voir, finalement. Et il le rappelle aussi que c'est ce Moïse-là qui avait prophétisé que Dieu susciterait un prophète comme lui, ça c'est dans Deutéronome 18, verset 15, déclaration qui, de nouveau, fait ressortir le parallèle qu'Étienne essaye de faire entre Moïse et Jésus, leur disant, mais finalement, ce prophète attendu, c'était lui. Mais vous l'avez quand même zigouillé, etc. Après, il y a une expression un peu bizarre au verset 38. Attends, je recherche où il est. Oui, donc c'est une nouvelle phrase où il dit « C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert », vous savez, il y a eu quelques convocations au désert de toute l'assemblée, il se trouve que le mot de la Septante pour assemblée, c'est le mot « ecclésia », très intéressant, hein, qui traduit l'hébreu « kaal », si vous voulez. Donc c'est lui qui, lors de l'église au désert, se tenait entre nos pères et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, etc. Donc, il est question de cette fameuse assemblée qui a eu lieu à Horeb, dans Exode 19, les versets 7 à 15, où le peuple est convoqué. Et cette assemblée au désert, qui est conduite par Moïse, on peut se poser la question, est-ce que c'est une préfiguration de la nouvelle ecclésia accompagnée pour toujours par le Christ, puisqu'il fait cette espèce de parallèle constant entre Moïse-Jésus, et il essaye de faire dire, de montrer au Sanhédrin que Jésus, c'est la même chose que Moïse, finalement. Vous reproduisez exactement les mêmes schémas. Mais la voie messianique dont on a longuement parlé tous ensemble, cette nouvelle, qui ne s'appelle pas encore l'Église à ce moment-là, la voie messianique est cette nouvelle ecclésia. Et vous feriez bien d'ouvrir les yeux et de le voir. Hein. Voilà un peu ce qu'il essaye de leur dire. Et puis, il continue avec l'idée que l'expression « se tenait entre nos pères et l'ange hein, », je ne sais pas comment c'est traduit dans vos traductions, mais il y a un rôle d'intermédiaire. Moïse jouait un rôle d'intermédiaire qui nous renvoie de nouveau au rôle joué par Jésus, finalement, pour toute l'humanité, cette fois-ci, où il devient guide, avocat, juge, etc. etc. Il se tient entre le Père et l'humanité pécheresse, etc. Et donc c'est à celui-là, ce Moïse-là, qu'on a remis des paroles. Alors le grec dit littéralement des paroles vivantes. Nos traductions disent souvent des paroles de vie. En clair, la loi. Donc on en vient à la loi. La loi donnée au Sinaï. Les paroles qui font vivre, si vous voulez. Étienne réfute donc ici les arguments des accusateurs. Rappelez-vous, chapitre 6, verset 11, verset 13, verset 14... où on dit qu'il dit du mal du temple et qu'il dit aussi du mal de la loi. Or, lui, il parle bien, il décrit la loi dans ce qu'elle est, profondément. Des paroles qui donnent la vie, des paroles qui suscitent la vie, des paroles qui protègent la vie, hein, qui donnent, qui révèlent, etc. Montrant clairement qu'il est très attaché à la loi, cette parole vivante, la parole de Dieu, en définitive. Et donc là, qu'est-ce que le Sanhédrin peut opposer à cette définition? Rien. Il n'y a aucun blasphème derrière ce qu'il est en train de dire. Et alors je saute un tout petit peu peut-être, mais on nous explique au verset 39, toujours en parlant des Hébreux dans le désert et de Moïse, que nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et retournèrent, alors ça dépend des versions, et retournèrent par la pensée en Égypte. Alors vous voyez, c'est là qu'il ne faut pas se tromper de lecture, parce que certains commentaires, pas des Actes mais d'Exode, nous disent ils voulaient retourner en Égypte. Non, 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 c'est pas ça que dit le texte, ni dans l'Exode, ni là. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'ils retournent en pensée. Ils font appel à la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Bon, d'abord, on peut tirer des conclusions. Quand on désobéit au chef, on désobéit au sauveur désigné, on désobéit donc à Dieu, en définitive, on le rejette, c'est la deuxième étape, eh bien, ça entraîne tout simplement le retour au passé. Quand on ne veut pas de la vie, on retourne à son caca, on retourne à son vomi, on retourne à son péché, etc., etc. C'est-à-dire la servitude qui, cette fois-ci, n'est plus la servitude du fouet, comme au temps de l'esclavage, mais la servitude culturelle et spirituelle de l'Égypte, c'est-à-dire toute la confusion qu'il y avait là. Alors, on va le dire autrement maintenant, pour que ce soit clair. L'absence de foi, quand on ne croit ni en Moïse et son rôle, ni au Dieu qui l'a envoyé, on est face au vide. Le vide spirituel. Et chez tout homme, le vide spirituel se comble inévitablement par des fausses croyances. Ce n'est pas possible de rester sans Dieu en ne remplissant pas le vide par quelque chose. Ici donc, l'expression « ils retournèrent par la pensée », en grec c'est les cœurs, hein, c'est les cœurs qui retournent vers. Mais les cœurs c'est le siège de l'intelligence et de la volonté. Donc ils retournent en pensée vers ce qu'ils ont connu pendant 4 siècles en Égypte. C'est-à-dire
l'esclavage.
Oui, la servitude, mais cette fois-ci sa propre servitude, son auto-servitude, et en même temps, la confusion totale au niveau spirituel, et donc l'idolâtrie. En clair, si on ne veut pas du Dieu des pères, Abraham, Isaac et Jacob, on ne peut que retourner à l'idolâtrie, c'est-à-dire au péché des origines. Car c'est ça l'idolâtrie, n'est-ce pas ? Quand Adam et Ève mangent le fruit défendu, ils font confiance au serpent qui leur dit « mais vous serez comme des dieux », etc., etc. Donc, on a toute une trajectoire où Étienne essaye de bien expliquer comment ça fonctionne finalement l'idolâtrie d'Israël, car ce n'est pas un cas, c'est des cas dans l'Ancien Testament. À des périodes différentes de son histoire, Israël a complètement dérapé, oubliant quasiment le Dieu vivant. Ça, c'est assez incroyable quand on y pense, quoi. Et alors, verset 40, quelle est la demande qui suit cette déclaration qu'ils sont retournés en pensée en Égypte ? C'est « Fais-nous des dieux !» C'est ça qu'ils demandent à Aaron, verset 40. Et je vous avais posé une question. Comment se fait-il qu'il y ait cette expression « Fais-nous des dieux !» Alors que ce qui va en sortir, c'est une statue qui représente un veau.
Est-ce que c'est pas l'idée que les Égyptiens avaient plusieurs dieux, donc en pensée, ils auraient voulu revivre.
En tout cas, la pluralité, ça c'est clair.
La même chose.
Alors il faut des dieux. Alors je vais essayer d'expliquer. Je suis pas certain de bien le dire. Oui.
Oui, c'est dans les dieux Moloch, là, où je ne sais plus comment il s'appelle.
Moloch, oui. Voilà.
Il y a 7 portes, donc chaque porte correspond sûrement à un dieu, ou je ne sais pas quoi.
En tout cas, une facette de la divinité.
Donc, ça représente les dieux qu'ils avaient, non ?
Alors, on va essayer d'y venir. Hein. Alors, je vais essayer d'expliquer, mais je ne suis pas certain de bien le formuler. C'est pour ça que je l'ai d'ailleurs écrit, mais malgré ça, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. Donc, la demande qu'ils font, « Fais-nous des dieux », elle est finalement très révélatrice de la réalité. Quand on ne se situe pas devant l'unique, le Dieu unique, le Dieu un, on est nécessairement dans le multiple. Encore une fois, on a vu que le vide n'était pas possible tout à l'heure, mais là c'est pire. C'est que si je ne me situe pas en face de Dieu, je suis nécessairement devant le multiple, la pluralité, ou en tout cas la dualité. Il est impossible de remplacer la relation au Dieu un par une seule pensée, une seule idée, une seule idéologie. Donc on entre toujours dans le double, c'est-à-dire la confusion de la pensée. Et donc, on commence par un dieu, petite idole, puis on finira par deux, puis par trois, puis par dix, puis, et c'est à l'infini. Donc, on nous dit au verset 41 qu'à cause de tout ça, ils façonnèrent. Alors, c'est très intéressant parce que on ne dit pas que c'est à Aaron. Si vous voyez bien en français, comme en grec, c'est le pluriel. Ils façonnèrent un veau, et même plus loin, verset 41, l'œuvre de leurs mains, de leurs propres mains. Donc, sous-entendu ici, c'est une critique de l'idolâtrie. C'est-à-dire, au fond, l'idolâtrie, c'est jamais que la production de soi-même. Vous voyez ? C'est moi-même qui m'invente un dieu. Je me fabrique quelque chose que je vais après adorer, sacrifier, etc. etc. C'est très dur ce que Étienne est en train de leur dire. Ils façonnèrent un veau parce que la pensée confuse débouche toujours sur des fabrications, des manipulations, des fausses croyances mortifères la plupart du temps, évidemment, aussi mortifères les unes que les autres. Et ici, la fabrication d'un veau à la mode égyptienne, hein, attention, parce que c'est qui ce bœuf ? Ce veau ou ce jeune taureau, ben c'est nécessairement Apis.
Oui,
il n'y a pas 36 représentations dans la mythologie égyptienne, au niveau des dieux, que celui d'Apis, c'est-à-dire le symbole de la force, le symbole de la fécondité, le symbole de la renaissance. Je reviens, parce que c'est important. Vous vous souvenez quelle est l'excuse qu'ils ont donnée à Aaron pour fabriquer un dieu ou des dieux ? Quelle est la raison pour laquelle ils demandent ça ?
Ils savent pas ce que Moïse
était. Qu'est-ce que notre chef a disparu, donc celui qui avait le pouvoir. Hein. Ben nous, maintenant, on veut quelque chose qui ressemble à ça. Quelqu'un qui exerce le pouvoir sur nous, quoi de mieux qu'un veau, hein. Mais, justement, un dieu peut en cacher un autre. Et c'est ça que je voulais vous faire toucher du doigt. C'est intéressant pour l'égyptologue de service. Mais c'est vrai que c'est intéressant de bien recadrer les choses. Apis, c'était un dieu généralement associé à d'autres dieux. Donc derrière lui se cachent d'autres dieux. Le dieu Ptah, P-T-A-H, c'est-à-dire le dieu créateur qui est lui-même antérieur au soleil. Bien avant que le soleil existât, Ptah existait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le deuxième qui se cache derrière le fameux Apis, c'est Ré ou Ra, ça dépend de la prononciation, c'est-à-dire le dieu soleil. Et comment est représenté le dieu soleil quand il est jeune ? Par un veau.
Ah, par un veau aussi.
Donc derrière la statue, le veau d'or en question, il y a les dieux de l'Égypte, effectivement, et pas qu'un seul, et pas des moindres. Et
donc Apis est un dieu qui cache... Oui, le premier, c'est qui cache...
Alors Ptah, P-T-A-H, qui lui est le dieu créateur, qui est antérieur, si tu veux, aux astres, au soleil en particulier, et puis Ra, qui est le deuxième, qui lui, d'ailleurs, sous sa forme donc naissante, si vous voulez, dans son jeune âge de dieu, est représenté comme par un veau. Voilà. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse dans le texte, c'est le fameux pluriel « ils façonnèrent ». Ce n'est pas Aaron tout seul qui est à blâmer dans l'affaire. C'est tous ceux qui se sont associés à cette demande et qui ont préféré retourner à la pensée égyptienne plutôt que d'essayer de faire confiance au dieu de la promesse, au dieu qui les sauve, qui les a sortis de là. C'est quand même assez incroyable quand on y pense.
Surtout que c'est Aaron.
Et finalement, ils placent leur confiance dans cette fameuse fabrication
humaine,
complètement muette, sans aucune vie, à qui, dit le texte, ils offrent un sacrifice. Voilà bien comment nos idéaux dégénèrent en croyances mortifères qui provoquent la mort par des comportements pécheurs, tout simplement. Donc c'est très intéressant la démonstration d'Étienne qui est de dire « Ouh là là, les amis, il faut vraiment s'attacher à Dieu, et à Dieu seul, au Dieu à l'unique, et pas à tous vos flonflons, vos coutumes, vos machins, ça c'est saint, ça c'est pas saint, etc. » Et il poursuit le discours en disant, au verset 42, ben voilà, qu'est-ce que fait Dieu devant un tel manque de reconnaissance ?
Il se les laisse là.
Ah ouais, exactement, il les plante là. C'est comme s'il claquait la porte, bon, allez, bye les gars, vous n'avez rien compris, je me casse. Voilà. Donc, c'est même pas l'idée que Dieu se fâche. Non, Dieu se détourne.
Il les laisse dans
Il les abandonne à leur bêtise. à leur fausse croyance. C'est ça qui est dit. Parce que finalement, les livrer au culte de l'armée du ciel, verset 42. Alors, pourquoi armée du ciel ? Et bien, tout simplement parce que dans la tradition, quand on regardait le ciel, on trouvait que c'était rangé comme une armée. Voilà, comme les armées qui se pointaient devant l'autre armée, etc. Et notamment, dans cette armée du ciel, il y a les astres, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Alors, il y a des textes bibliques qui en parlent, hein, je ne les invente pas, cette description-là. Il les livra, ben, c'est une manière de dire que Dieu les abandonne à leurs fausses croyances, il arrête de se battre avec eux, ça ne sert à rien, il préfère se complaire là-dedans, ben, vivez-le alors. Hein. Et pourtant, et ça doit être dur pour Dieu, c'est quand même ces fausses croyances qui procurent la mort spirituelle, psychologique et physique. Donc ça ne doit pas faire plaisir à Dieu nécessairement, mais là, il jette son gant, manifestement. Et alors, on sait que dans l'histoire d'Israël, les épisodes idolâtres, ils ont été nombreux. Je pourrais citer un certain nombre de textes, hein, elles seront dans l'écrit que vous aurez un jour. Et voilà, il y a tellement de références que moi j'en ai gardé que deux pour les notes ici pour l'instant. On trouve des trucs comme ça dans Jérémie 19, verset 13, ou dans Sophonie, chapitre 1, verset 5. Et puis il y a la fameuse citation d'Amos. Alors je vous rappelle que cette citation d'Amos qu'Étienne fait est vraiment tirée de la Septante. Donc il y a quelques petites variantes avec le texte hébreu d'origine, mais peu importe. Et au fond, il leur dit, mais, comme Amos, vous avez fait quoi dans le désert ? Est-ce que vous avez offert des victimes, des sacrifices ? Puisque c'est si important pour vous, le temple, les deux agneaux par jour, etc., tout le tralala que vous faites avec le sacrifice, est-ce que pendant 40 ans, on a pratiqué ces sacrifices ? Et en grec, la formulation de la question nécessite la négation. Donc je ne peux répondre que non, dans la forme. C'est donc non. Non, on n'a pas offert de sacrifice. Et au fond, Étienne cherche à stigmatiser l'idolâtrie ici, l'idolâtrie persistante d'Israël. Et il prépare de cette manière-là la troisième partie de son discours qui va être centrée, comme on le verra, sur le lieu saint. Ça ne va pas être triste, à mon avis, dans les versets 44 à 50. Et finalement, c'est comme s'il leur disait, le seul sacrifice qu'Israël a bien voulu concéder, c'est celui du veau d'or. Si c'est pas triste. Et alors d'après Nombre 28, on sait qu'il fallait un holocauste perpétuel. Donc il fallait sacrifier normalement deux agneaux par jour, un le matin et un le soir. Et que c'était déjà pratiqué au Sinaï, à l'entrée de la tente de la rencontre, jusqu'au moment où ils ont erré dans le désert, où apparemment on a abandonné cette pratique, peut-être par défaut de moutons, d'agneaux. Hein, c'est possible, parce que le désert, c'est le désert. Hein, voilà. On peut faire manger trois brebis, mais 500 ou 1000, ça devient compliqué. Et en citant le prophète Amos, selon la version des Septante, l'argument d'Étienne porte sur l'aspect relatif et transitoire des sacrifices. Parce que dans son idée, le vrai sacrifice, c'est le Christ, l'agneau pascal. Car ce que Dieu espère, finalement, et c'est ce que disent déjà les prophètes, c'est le sacrifice de nos cœurs. Dieu n'attend pas qu'on égorge des moutons pendant 1000 ans. Dieu attend que nous nous tournions vraiment vers lui, de tout notre être, finalement, et que nous nous offrions, comme dirait saint Paul, en sacrifice. Et alors, qu'est-ce qu'il leur reproche au verset suivant ? Ben, au lieu de faire ça, vous avez préféré porter la tente de Moloch. Alors, bien sûr que l'idée « vous avez porté », c'est une petite allusion au port de l'Arche de l'Alliance, vous voyez ? Il se fout un peu de leur poire. Que dit. Normalement, on aurait dû porter l'Arche, mais là, d'après Amos, vous avez plutôt porté la tente du dieu Moloch. Alors, Moloch, ben oui, il faut peut-être qu'on sache un petit peu de qui on parle. Alors, on a dans nos versions Moloch,
Dieu des Ammonites.
Alors, en hébreu, c'est le mot Melek qui est le mot qui veut dire le roi. En grec, c'est Molech qui a donné ensuite en français Moloch. Voilà. C'est un dieu d'origine phénicienne qui est honoré par plusieurs peuplades en Canaan. Et comme tu le dis, il y avait au moins 5 ou 6 peuplades différentes en Canaan à ce moment-là, qui adoraient plus ou moins les mêmes dieux, parce que ce n'est pas le seul, évidemment, hein, Moloch. Et la particularité de ce Moloch, c'est quoi?
On sacrifiait les enfants.
Brûlés vifs.
Alors, on n'est pas certain que c'était brûlé vif, mais en tout cas, certainement égorgé avant de brûler. Ah, oui. Donc, quasiment. C'est un peu mieux, mais...
Un petit peu mieux.
C'est un peu plus confortable.
Ouais.
Et au fond, c'est assez intéressant parce qu'on voit de nouveau qu'Étienne se permet des raccourcis qui ne sont pas fondamentalement historiques. Vous voyez, quand il fait la citation d'Amos, il est en train d'utiliser Amos pour parler d'idolâtrie d'avant, c'est-à-dire celle du Sinaï, quand on a fait le veau d'or, etc. Il use de certains raccourcis, mais pour pouvoir utiliser les reproches d'Amos. Ce qu'il veut fustiger, c'est l'idolâtrie des Hébreux. Pas simplement celle du passé, mais celle du présent. À une période de l'histoire d'Israël, notamment sous Amos, il a travaillé sous les deux rois, le roi du Sud, le roi du Nord, hein, roi de Juda et roi d'Israël, Ozias et Jéroboam, on offrait effectivement des sacrifices d'enfants, égorgés puis brûlés, dans la vallée, alors, de Ben Hinnom, qui a donné ensuite, dans la version grecque, Géhenne, on comprend peut-être mieux, dans un lieu très précis qui s'appelle Tophet, c'est-à-dire, si je traduis littéralement, le lieu pour brûler. Donc il y avait, ça se trouve au sud-ouest de Jérusalem, dans la vallée qui part au sud-ouest de Jérusalem. Et là, on a des textes des rois qui en parlent, hein, donc c'est... Moi, je ne parle pas, j'invente pas, c'est dans le texte des rois, donc des textes plutôt historiques. Dans les textes de 2 rois 16, 17, 21, on trouve une série d'informations sur ces fameux sacrifices formellement interdits par la loi. C'est-à-dire, si vous avez trouvé les versets, dans Deutéronome 12, 31, ou 18, 10, ou dans Lévitique 18 en entier, ou dans le chapitre 20 de Lévitique, on trouve l'interdit de pratiquer ce genre de choses. Et finalement, ce culte fut supprimé par Josias. On trouve cette information dans 2 Rois 23, au verset 10. Josias, qui revient à l'orthodoxie, si vous voulez, à la relation à Dieu, a supprimé ce culte et il a transformé cette vallée, la vallée de la Géhenne, si vous voulez, en dépotoir de la capitale. Donc, pour qu'on ne puisse plus offrir des sacrifices, il a dit « Maintenant, c'est là que vous mettrez vos poubelles. Et elles brûleront là, dans cette vallée. » Effectivement, pendant un temps, ça a été le cas. Et un jour, on est revenu de nouveau à ces pratiques. Et on trouve la critique des prophètes, critique très virulente dans plusieurs prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, au sujet de ces pratiques-là abominables. Abominables aux yeux de la loi, abominables aux yeux de Dieu. Et puis il continue sa démonstration avec les citations. Alors après Moloch, on a droit à Réphan. Alors il y a différentes orthographes, hein, ça dépend si on fait confiance aux Grecs, si on fait confiance à l'hébreu, si on fait confiance, etc., à l'acadien. En fait, en hébreu, c'est le mot sakout qui a donné Réphan, Remphan, qui est plutôt une origine égyptienne. C'est même pas du grec, hein, en fait. Donc, dans la Septante, c'est le nom assyrien qui est donné, qui est remplacé par Romphan, Romfa, Réphan, Remphan. Enfin, il y a différentes possibilités qui sont les noms de la même divinité. Voilà. L'astre de votre dieu, qui est la planète Saturne, tout simplement. Donc, il y avait un dieu qui représentait l'astre en question. Donc, on peut dire que, avant d'entamer la troisième partie de son discours, où il va vraiment focaliser sur le lieu saint, il a fait toute une démonstration du comportement d'Israël, de sa manière de s'attacher ou non, de sa manière de suivre Dieu ou non, et quand il ne le fait pas, de sa manière d'errer, d'adorer n'importe qui, n'importe quoi, de revenir à la mort, parce que, bon, égorger des enfants premiers, des fils premiers-nés, et puis les brûler, voilà, c'est quoi, hein. Même pour l'époque, c'est incroyable, quoi, quelque part. Surtout pour un peuple qui a connu l'Alliance, qui a eu une histoire, qui a un vécu avec Dieu, avec le vrai Dieu, celui qui n'est pas muet, justement, celui qu'on ne peut pas manipuler. On a du mal. Et pourtant, c'est toute sa démonstration, c'est d'essayer de faire comprendre au Sanhédrin qu'ils ne sont pas meilleurs que leur père et que le regard qu'ils portent sur la voie messianique est une erreur monumentale et qu'ils feraient bien de se réveiller s'ils ne veulent pas eux aussi mourir dans leur péché, finalement, dans leur fausse vision de ce qu'est la vie, de ce qu'est la vie avec Dieu, de ce qu'est Dieu, hein, en sachant que parmi eux, ben, y a un certain nombre de traîtres, de collaborateurs, de gens qui ont fait ami-ami avec les Romains. Ça ne doit pas être triste. Hein. Mmh. Moi, je suis persuadé, comment je veux dire ça, que lorsqu'Étienne est en train de prononcer son discours, il observe tout ce qui se passe dans l'assemblée et qu'il voit quand il fait mouche, quand il a touché, l'exaspération, l'énervement, oui, le haussement d'épaule, enfin tout ce qui peut. Et à la limite, ça le booste encore plus. Non pas pour les provoquer, mais pour une bonne fois pour toutes leur dire leurs quatre vérités et surtout dire la vérité. C'est-à-dire la vérité sur qui est Dieu. Le Dieu que vous prétendez honorer n'est pas celui que vous honorez. C'est désolé, les amis, vous vous trompez complètement. Et la démonstration n'est pas finie puisqu'il nous reste une partie assez intéressante sur le lieu saint où j'espère nous trouverons encore d'autres réponses. Quoi. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est du tout, je n'ai pas regardé. Désolé de faire courir un peu, mais j'avais tellement peur qu'on n'arrive pas à la fin du discours avant la séparation que je préfère qu'on l'ait survolé, quitte à y revenir.
Survolé.
À la rentrée, on peut...
On
est déjà à plus de 110 pages.
110
pages.
C'est vrai.
On est
en plein truc. Je passerai mes notes à quelqu'un, ça ne les aide pas.
Je rate quand même.
Non, mais ce qui est intéressant, dans sa propre prise de notes, ce qui est intéressant, c'est ce qui nous frappe. C'est pas tellement de tout prendre. Si je note quelque chose, c'est que ça me parle, c'est que ça joue un rôle pour moi.
C'est quand même difficile de faire la part des choses. Hein. J'essaye de tout dire, ce qui n'est pas le cas. J'en rate.
Moi non plus.
Je ne fais pas le tri.
Moi non plus. Aujourd'hui, j'ai bien avoué qu'il y a des choses que j'aimerais travailler encore, que j'aimerais creuser davantage. Parce que, par exemple, l'histoire des pieds nus, ça m'est sauté aux yeux avec la place de grand prêtre, la fonction de grand prêtre de Jésus. Je dis, punaise, c'est juste que dans les moindres détails, la réalisation de la promesse.
Comme tu disais, quand on lit la Bible chez soi tout seul, on passe à côté de tellement de choses. Cette histoire des pieds nus, oui, j'en souviens avec les parfums, je ne sais plus tout quoi, mais comment ça s'appelle, parce que bon, on oublie tous ces machins-là, en lait et tout ça. Et c'est vrai que je n'ai jamais entendu parler des sandales, mais je n'ai jamais remarqué.
D'ailleurs, c'était une coutume proche-orientale, hein. Il n'y avait pas de culte rendu à des dieux sans se déchausser à l'entrée d'un temple, par exemple. Ce qui n'est pas le cas en Israël. C'est ça qui est intéressant.
C'est ça que tu as fait remarquer.
Est-ce qu'on fait remarquer que les sandales étaient faites certainement en cuir, dans la peau d'animal.
Très bien. Ça, j'ai oublié de le dire.
Qui est le symbole.
Donc, va au bout du truc.
Qui est le symbole de ce que Dieu a donné quand Adam et Ève étaient nus. C'est-à-dire pour couvrir la honte du péché. Et donc, c'est une victime innocente qui est chargée du péché. Et donc, la peau d'un animal qui sert au semel, qui ramasse les orgies,
les souillures.
Donc, elle se charge comme une victime du péché.
Et en même temps, tu peux aller plus loin encore. Les sandales faites de peau, alors d'animaux, chèvres ou tout ce qu'on veut, c'est nécessairement d'un animal mort. Or, tu n'as pas le droit, quand tu t'approches de Dieu, tu n'as pas le droit d'avoir touché un mort et d'aller adorer Dieu. Tu dois d'abord enterrer tes morts, faire la trêve pendant 7 jours avant de pouvoir retourner au temple. Et donc, nécessairement, celui qui doit entrer dans le lieu saint, pas les gens, ils avaient le droit d'entrer comme ça, mais quand tu es prêtre, que tu dois pénétrer dans le lieu saint ou aller à l'autel, là, nécessairement, il fallait abandonner tout ça aussi. Voilà, donc c'est très bien, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que j'avais zappé le...
Moi, ce qui m'impressionne beaucoup là-dedans, je précède la réunion de la semaine prochaine, mais ce qui me fascine vraiment, c'est Christ dans toutes les Écritures. Et on ne peut pas se dissocier de l'histoire d'Abraham, de Moïse et de Jacob, d'Isaac. Pour nous, chrétiens, qui avons abandonné notre vie et notre foi en lui, c'est automatiquement lié à toute l'histoire du peuple juif.
Exactement.
Qui ne s'arrête pas pour nous à un moment donné de l'histoire juif. On ne devient pas juif, on ne pratique pas ce que les Hébreux faisaient, mais on ne peut pas être dissocié de ça. Mmh, mmh. Et Christ est dans toutes les Écritures. Et donc,
on ne peut pas être pleinement chrétien sans nos racines juives et sans comprendre ces textes.
C'est très important pour être complet
nous-mêmes. Quoi. Mmh. Très, très bien. Voilà une belle application.
Les étrangers,